De tous les rois de France, François Ier reste au même titre que Saint Louis, Louis XI ou Louis XIV un homme d'exception. Mieux, il s'inscrit dans les tout premiers rôles de notre roman et de notre histoire nationale. La bataille de Marignan n'est-elle pas le symbole de l'enseignement de l'histoire dans nos écoles ? Or, pour certains, François Ier fut un roi chevalier, toujours en première ligne au combat. Un prince modèle qui plus est amoureux des arts et des lettres, de la langue française surtout. Pour d'autres, et afin d'équilibrer la balance, il fut un prince dépensier, intolérant d'un point de vue religieux, voire dominé par la gente féminine. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un homme pétri de légendes. Mais entre la légende dorée ou la légende noire, où peut-on situer le curseur d'une vérité historique? C'est ce que nous allons voir avec Didier Le Fur. Didier Le Fur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue aussi les auditeurs de Storia Voce qui vont donc découvrir à travers ces grands entretiens donc de Storia Voce votre livre, François Ier, une somme absolument monumentale, ce qu'on appelait avant une biographie fleuve, d'un personnage, je le disais, incontournable, donc François Ier, paru aux éditions Perrin. Didier, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Je vous avais reçu il y a bien des années à Canal Académie pour présenter un de vos ouvrages, La bataille de Marignan. Cette émission est disponible sur Storia Voce. Est-ce que cet ouvrage, François Ier, est un peu comme un sommet pour l'historien que vous êtes ?
Je ne parlerai pas de sommet, je parlerai plutôt d'une sorte d'aboutissement d'une recherche que j'ai entreprise depuis très très longtemps, depuis la fac, sur les guerres d'Italie. J'avais travaillé sur Louis XII et Charles VIII. J'avais après sauté le règne de François Ier pour arriver à Henri II pour cette fin de guerre d'Italie, puisque les guerres d'Italie commençaient avec Charles VIII et s'achevaient avec Henri II. En 1559. Et ce gros règne de plus de 30 ans de François Ier me faisait, j'avoue, un peu peur. Et puis, il y avait des biographies qui existaient, celle de Jacquard, celle de Knecht un peu moins, mais celle de Jacquard qui était ancienne, certes, mais solide. Et au début, je ne voyais pas trop ma place là-dedans, dans cette histoire, ou voir ce que je pouvais faire un peu de différent ou de nouveau. En travaillant sur Marignan, j'avais, déjà en travaillant sur la thèse, il y avait des choses qui avaient déjà évolué. En travaillant sur le livre de Marignan, je m'étais aperçu que cette bataille était déjà complètement mythifiée, réécrite trois fois simplement sous le règne, et que finalement elle avait été la base de toute une légende qui va être explosée au XIXe siècle, c'est-à-dire l'image du roi chevalier. Et peu à peu, cette structure de grand homme colossal et imprenable, eh bien, s'effritait. Et en comparant peu à peu avec les autres livres, eh bien, je me percevais que j'avais de plus en plus d'espace pour pouvoir faire peut-être quelque chose de différent ou apporter un regard différent. Mais je ne me sentais pas tout à fait prêt. Je pensais à un texte à la fin sur le massacre de ces Vaudois convertis au calvinisme en 1545. Il y avait un joli sujet. Mon éditeur de l'époque était Laurent Taïs, me disait non.
Vous avez écrit un livre sur l'Inquisition, si mes souvenirs sont
bons. Ouais, c'est ça. Et alors c'était déjà une approche comme ça, parce que je pense qu'il y avait un vrai beau travail justement sur l'idée de l'utilisation de la religion en politique. Et où finalement, tout ça n'est qu'à faire de politique et qu'on met Dieu et la foi des hommes pour justifier une violence notamment, ou des prises de territoire, ou des prises de pouvoir. Et donc il y avait un sujet là à faire, et surtout qui permettait de parler d'un premier massacre dont on ne parle jamais, c'est-à-dire près de 2000 personnes qui vont être massacrées par l'armée du roi de France, soutenue par le pape. Pour le bienfait de la chrétienté, ou en tout cas du catholicisme. Et puis sur un coup de tête, et grâce à un éditeur qui s'appelle Nicolas Grappaillin, et bien qui a su me dire les mots justes pour que j'y aille, en fait. Et je me suis lancé dans cette aventure. J'avais déjà, je vous l'ai dit, contourné et travaillé sur ce règne, soit par la thèse, soit pour Henri II, ou pour Marignan. Et là, bah, j'ai consacré 6 ans, à peu près, entièrement, rien qu'à ce monsieur.
Comment expliquer, Didier Le Fur, la popularité de François Ier ? Ça, parce qu'en en fait, vous présentez un personnage qui possède une légende dorée, qui possède également une légende noire. Or, dans l'imaginaire quand même collectif, les gens estiment ou voient d'une manière assez positive François Ier.
Aujourd'hui. Aujourd'hui simplement, parce que pendant très longtemps, enfin jusqu'à la fin des Valois, jusqu'à la fin du règne d'Henri III, François Ier, le premier de cette famille, Valois-Angoulême, est considéré comme le maître à penser, comme la statue du commandeur. Et l'arrivée des Bourbons, avec Henri IV, une nouvelle dynastie, cette dynastie des Valois-Angoulême s'étant épuisée par elle-même, par son impuissance, et bien forcément, le nouveau Bourbon arrive et donc, puisque Dieu a choisi une autre famille, forcément, la famille précédente était mauvaise. Et peu à peu, parce que François Ier avait une bonne image dans l'histoire, peu à peu, on va l'attaquer. On va l'attaquer sur des travers qu'il aurait eus, qui n'ont jamais été prouvés, c'est-à-dire notamment sur l'influence des femmes, sur son érotomanie, carrément, puisqu'on va y aller carrément, on va faire des tas de pièces de théâtre, des tas de romans, mais aussi on va intégrer toutes ces idées dans les livres d'histoire, ça c'est au XVIIe et XVIIIe encore, et jusqu'au début du XIXe siècle, François Ier est considéré comme un mauvais roi, un très mauvais roi. Et c'est à partir du XIXe, de la recomposition de cette restauration, qui a toutes ces ambiguïtés, qui cherche dans le passé des références, de modèles, Louis XII pour la politique, et puis François Ier avait quand même, et ça on lui a jamais enlevé, cette idée de la Renaissance, cette idée du roi mécène, même si c'est complètement fabriqué, mais c'était son point positif. Et bien la peinture d'histoire, les historiens aussi de Louis XVIII et de Charles X, et bien vont complètement recomposer une image extrêmement positive, carrément même d'un prince d'opérette. Et les autres restant les historiens restant toujours un peu prudents, et notamment les historiens républicains, voire les historiens protestants, puisqu'il était convenu depuis le début du XVIIe siècle que François Ier avait engagé la répression contre les protestants. C'est une réalité depuis 1535, mais cette répression, elle est quand même minima. Hein, à part, c'était ce fameux épisode de 1545. Mais curieusement, cet épisode de 1545, comme il y a eu un procès après qui a dédouané complètement François Ier, tous les historiens protestants du XVIe siècle, de la deuxième moitié du XVIe siècle et début du XVIIe, ont complètement dédouané eux aussi François Ier. C'est des curiosités comme ça d'historiographie. Donc, ce François Ier avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Et peu à peu, le genre biographique aidant à la mythification du personnage, et forcément, on ne va pas faire 1000 pages ou 500 pages sur un homme exécrable, où on va le tenter le coup une fois, deux fois, mais ça ne marchera pas vraiment. Puisque les historiens lui avaient trouvé des qualités sur d'un point de vue de mécénat, qu'il avait fait de cette France une France riche avec des peintres, des sculptures, des châteaux qu'on pouvait visiter et qu'on restaurait au 19e, eh bien on va lui attribuer aussi la protection de la langue française, on va lui attribuer également l'institution du Collège de France. Et donc du coup, cet homme qui ne pensait qu'à la guerre de son vivant, qui ne pensait qu'à ses ambitions ou à des ambitions territoriales et expansionnistes, va devenir un homme cultivé, un homme, c'est-à-dire l'exemple même du français idéal, cultivé, élégant avec les femmes, puisque là, du coup, sa perversité, elle devient de l'élégance, et c'est ce qu'on appelle la galanterie. C'est toute l'histoire même du mot de la galanterie, c'est-à-dire, en gros, de la sexualité aux bonnes manières, et voire une sexualité violente, aux manières les plus élégantes. Et tout ça se transforme, s'édulcore, s'enjolive, et depuis une trentaine d'années, et essentiellement depuis le début du premier septennat de François Mitterrand. C'est vraiment très caractéristique. Eh bien, il y a à peu près une cinquantaine de bouquins qui vont paraître depuis 30-35 ans sur François Ier et qui vont faire la gloire de cet homme, de cette Renaissance, de cet homme magnifique, de cet homme qui avait réinventé la France. Louis XI, qui avait été un peu préféré dans les années antérieur, eh bien, va être complètement oublié. Et ce restaurateur de cette France moderne, cet instaurateur de la France moderne, d'une France cultivée, amoureuse des arts, capable de diffuser et de porter cette lumière que cette France ne peut plus faire par la guerre ou ni par les colonies, mais le peut encore par le l'intellect et l'esprit, eh bien, il en devenait complètement l'incarnation.
Vous avez travaillé sur Charles VIII. Est-ce que ce n'est pas le propre des grands hommes, au fond, d'avoir cette double personnalité, cette double légende, la légende noire et la légende dorée?
Je crois qu'ils ont tous ça, tout simplement parce que c'est le problème de l'historien. Il y a des sources incontestables. Tel jour, il y a eu un acte diplomatique, tel jour, il y a un traité de paix, tel jour, il y a une mort, tel jour, il y a une naissance. Après, c'est savoir comment on va expliquer cette mort, cette naissance, ce traité de paix et ces autres événements. Selon qu'il y a des sources ou pas, l'historien va pouvoir en parler ou pas. Il y a une quantité d'événements, mettons même aujourd'hui par exemple, qui se passent et qui ne seront jamais dans l'histoire de France, dans une prochaine histoire, même d'une histoire du quinquennat de François Hollande. Alors qu'il y a des tas d'événements qui peuvent être choquants, encourageants, heureux pour plein de monde, et qui ne seront jamais dans un livre. Tout ça pourquoi? Parce que ça n'a pas été forcément relayé par une radio, relayé par un magazine, un journal, ou par un épisode à la télévision, et donc du coup ça va s'oublier. Par contre, ce que l'historien va utiliser, ce seront justement ces documents qui vont rester. Et donc il y a une sélection déjà, et une sélection aussi dans l'interprétation. Et c'est à partir de cette sélection et cette interprétation que l'historien fait son travail. Et c'est là toute la difficulté de l'historien, et c'est là où il doit faire toujours très attention, et c'est là, pour en tout cas des événements ponctuels et contemporains, à un règne ou à un événement, et avec la suite, parce que même si on peut utiliser le conditionnel, eh bien, d'un point de vue, d'un regard, imaginez 50 personnes qui incarnent un accident, il y a une seule personne qui va le raconter. Donc ce sera son regard, mais ce regard-là, l'historien va le prendre pour un regard universel. Et c'est là tout le problème. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours fait attention à ça, c'est toujours citer la personne qui le disait, et pourquoi elle le disait, et quand elle l'avait dit. Et quelquefois, 2 ans, 10 ans, 20 ans après, beaucoup d'historiens considèrent que c'est une source. C'est pour moi plus une source. Puisque 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, même dans notre propre mémoire, on a tout oublié, on réécrit les choses, on retravaille quelque chose en fonction des émotions qu'on a eues, ou pu, par rapport à un individu, ou par rapport à un contexte particulier. Puisque nous-mêmes, nous changeons de regard surtout sur la notion de liberté, la notion de pudeur, la notion d'amour, d'affect et des choses comme ça tout au long de notre vie. Donc c'est tout à fait logique que ça change aussi quand un auteur, même du XVIe siècle, va raconter un événement 5 ou 20 ans plus tard. Marignan, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu 3 réécritures de cette bataille pendant tout le règne de François Ier, en fonction justement de la politique de François Ier. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on va écrire des événements ou sur ce roi, de son vivant ou après.
Alors venons-en précisément au règne. Alors votre travail est extrêmement fouillé. Il fait quasiment.
Il ne faut pas le dire.
Donc je souhaiterais m'attarder sur 2 faits particuliers. Le premier, c'est une année toute particulière qui est l'apogée au fond du règne. François Ier arrive au pouvoir en 1515, et 2 ans plus tard, on peut dire que c'est un prince qui domine l'Europe, et une idée dont on n'a pas conscience, mais c'est une idée extrêmement importante, qui montre d'ailleurs que les coupures entre l'histoire médiévale et l'histoire dite moderne, avec le début de la Renaissance, sont beaucoup plus complexes.
C'est artificiel.
C'est artificiel. En 1517... on pense encore à l'idée de croisade. Et cette idée de croisade, le pape en assure bien évidemment la promotion. Donc, alors que l'Europe est en paix, l'Europe est dominée par ce personnage, eh bien, et relancer cette idée de croisade.
Mais c'est parce que c'est tout, c'est là aussi, c'est un imaginaire qui est complètement différent d'une autre, c'est que la notion de guerre n'est pas un problème. Faire la guerre, c'est même nécessaire. Il y a la noblesse, elle est là pour ça. Un roi de France, il est là pour défendre à la fois son peuple, ses frontières dans le royaume, mais aussi défendre la chrétienté. Et donc, cette notion de défense, cette notion de protection implique régulièrement des combats. Et l'événement dont vous parlez, c'est après Marignan, François Ier réussit ce tour de force assez admirable de mettre tous les princes chrétiens dans sa poche, ou ne peuvent rien faire contre, en tout cas à ce moment-là. Et le pape, qui est généralement assez hostile aux Français quand ils sont en Italie, eh bien, là aussi est obligé, parce qu'il ne peut pas se défendre tout seul dans la péninsule. Et donc, va lancer cette notion de croisade, cette idée de croisade encore, c'est-à-dire contre toujours cet empire turc à cette époque, qui, lui, prend des dimensions de plus en plus importantes, puisqu'il vient d'envahir la Perse et commence à gagner tout ce qui est aujourd'hui l'espace syrien et libanais pour arriver jusqu'à l'Égypte.
Mais avant l'idée de croisade, il y a une idée extrêmement importante qui montre d'ailleurs, au même titre que vous présentiez l'historiographie, les études historiques, une permanence des comportements du XVIe par rapport aux événements jusqu'à nos jours. L'idée de paix universelle, et ça je l'ai découvert en lisant votre ouvrage, à un moment il y a une déclaration de paix universelle en Europe entre les princes. On pense que le XXe siècle a l'apanage de la déclaration de paix universelle, que ce soit par la Société des Nations ou bien plus tard par l'Organisation des Nations Unies, mais finalement on est toujours à un moment ou à un autre dans un retour du cycle guerrier.
Ben oui, parce que c'est toujours l'idée de la rivalité, l'idée d'une prise de pouvoir sur l'autre, qu'elle soit, j'allais dire, laïque dans l'idée d'un État sur un autre, ou pour des histoires de territoire, à l'époque, des biens sur lesquels les rois pouvaient prétendre des droits, essentiellement par leurs épouses en général, ou des biens usurpés à la guerre antérieure et qu'on voudrait récupérer. Et puis il y a l'idée aussi, tout bête, c'est que ce sont des princes chrétiens où l'importance de la religion chrétienne est immense, et que dans la religion chrétienne, l'idée du retour du Christ, elle est complètement intégrée, que ce retour du Christ, eh bien, peu à peu, on l'a préparé avec tout un système de prophéties depuis le XIe siècle, avec un prince qui serait ce dernier empereur, l'empereur des derniers temps, qui, après avoir pacifié son royaume, réformé l'Église, s'en irait conquérir les terres des infidèles, les soumettrait à la religion, à la vraie foi, c'est-à-dire la foi catholique, ou enfin la foi chrétienne encore à l'époque, et à la fin de sa vie, rentrerait à Jérusalem, et irait sur le mont des Oliviers pour déposer toutes ces couronnes. Et c'est à ce moment-là que le Christ reviendrait sur terre. Les Français, les rois de France, depuis Philippe le Bel, mais encore plus depuis Philippe Auguste, ont repris cette prophétie à leur compte et cet espoir. Et cet espoir était intéressant parce qu'à la fois il fait... De par les livres d'histoire, le pouvoir avait la mémoire sur le passé, c'est-à-dire qu'il pouvait recréer, réécrire le passé à sa convenance, et ça se voit totalement si on compare toutes les chroniques depuis l'époque de Clovis jusqu'au XVe siècle, c'est réécrit régulièrement, rallongé, rectifié. Et ils avaient le pouvoir du présent, c'est-à-dire avec le pouvoir, l'État et des choses comme ça, et avec ça, ils avaient aussi le pouvoir de l'avenir, c'est-à-dire grosso modo, nous avons un régime idéal, stable, et grâce à un roi de France, peut-être moi, peut-être mon fils, eh bien on arrivera à cette paix universelle. La guerre, il faut la vivre, mais c'est par la guerre qu'on aura cette paix. Et donc ça, cette espèce d'espoir qui consiste à vouloir unir tous les chrétiens sous une même couronne, sachant que parallèlement, il y a tout un nationalisme qui se crée. Et donc, du coup, c'est toujours le roi du pays qui est le bon, mais le roi d'à côté, on ne va jamais plus le supporter. Et on va lui faire la guerre pour ça, parce que ce n'est pas le vrai. Et il y a des textes magnifiques là-dessus. Et cette idée, comme ça, d'universalité, elle est complètement ancrée dans tout le monde chrétien. Tout le monde la partage. Tout le monde, à l'époque de François Ier, que ce soit Henri VIII ou Charles Quint, vont prétendre aussi être ce potentiel empereur universel ou ce prochain. Et l'idée du Christ, et c'est ça qui est amusant, eh bien, c'est le fils de ce dernier empereur. Et c'est ça qui est formidable, c'est que au même moment se crée toute une propagande, une image de la reine. Ça a été très visible avec Anne de Bretagne et Charles VIII, où Anne de Bretagne devenait la nouvelle vierge, et finalement l'enfant, le dauphin, était ce nouveau Christ qui régnerait pour l'éternité, ou en tout cas pour des années, miraculeusement, grâce à Dieu, sur cette terre enfin pacifiée et enfin totalement chrétienne, puisque totalement chrétienne, il n'y a plus de rivalité possible.
Mais subsistent bien évidemment des rivalités, au-delà de cette mythification, en quelque sorte, toute cette spiritualisation du politique.
Mais c'est important, parce que ce truc-là a géré l'imaginaire de la monarchie française, au moins jusqu'au début du XVIIIe, avant d'être complètement balayé par un autre imaginaire, c'est la notion du progrès. C'est-à-dire entre l'image du retour à l'âge d'or par un roi de France, et après, par un roi de France ou un homme politique français, avancer vers le progrès. Et cette idée toujours de la France, quand même, malgré tout, en lumière par rapport aux autres.
Je renvoie nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Christophe Levallois sur la royauté et le sacré, qui montre ce lien extrêmement important, donc avant ce XVIIIe siècle. Il y a une volonté politique. Est-ce que c'est un bon politique, François Ier ? Est-ce que on peut dire, à la fin de son règne, cet homme a été... Parce que dominer l'Europe en 2 années, j'allais dire, dans l'histoire, ce n'est pas si courant.
Non, mais il y avait un type très bien avant, c'était Louis XII. Et il ne faut pas oublier que la France, à cette époque, est le pays le plus puissant. C'est le plus riche, c'est le plus grand, déjà. Les autres sont des conglomérats. Il y a à peu près 15 millions, 16 millions d'habitants. Les autres n'en ont que 5, 6, 8 maximum. L'Empire en a 15 aussi, mais c'est une confédération, c'est complètement fractionné. Et le pouvoir du roi de France, grâce à l'impôt, grâce à la très très grande docilité du peuple français à se soumettre à cette monarchie, non pas absolue, parce qu'elle n'est pas absolue, mais chrétienne, avec ce pouvoir de Dieu, avec cette soumission au roi, et une très grande facilité. La puissance, parce qu'il y a de l'argent, les rois de France peuvent payer des soldats, ont payé les Suisses pendant très longtemps, les Lansquenets aussi allemands. C'est comme ça que Charles VIII a pu faire son expédition, vouloir repartir, Louis XII aussi, pendant tout son règne, parce que même si on a une image de Louis XII très très soft, de roi modéré, des choses comme ça, c'est un roi guerrier. Il a fait la guerre pratiquement tout le temps, et presque à tout le monde. Et il a fallu que toute l'Europe entière, c'est pas rien, quand même, eh bien, s'allie contre lui pour qu'il perde ses conquêtes italiennes. Et 2 ans plus tard, il était prêt à repartir. Il meurt, tout était préparé, François Ier revient, il reprend ce qui est en place, et reconquis Gênes et le duché de Milan. Cette puissance française, elle ne faisait que continuer, elle était simplement déjà en mise en place sous Louis XII. C'est simplement la naissance d'un petit garçon qui n'a 15 ans en 1515, et qui est ce fameux Charles d'Autriche ou Charles de Habsbourg,
le futur Charles Quint.
Grâce aux successions, finalement, à la fois de sa mère et de sa grand-mère sur les Pays-Bas, puis après par l'élection de 1519 où il va devenir roi des Romains, et donc il va reprendre toute la confédération allemande, et entre temps avec son autre grand-père Ferdinand d'Aragon, qui lui était maître de l'Espagne et avec des droits en Italie, et sans parler de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, avec une succession de couronnes comme ça, et par le sang et par les morts des uns et des autres, eh bien ce jeune homme à 20 ans est à la tête d'un des plus grands empires qu'on ait jamais eu. Alors il n'est rien politiquement, c'est complètement fractionné. mais il n'a pas d'argent, mais il a une volonté, c'est justement cette idée de se présenter aussi comme un empereur universel, il va tout jouer là-dessus. Mmh. Et en tout cas, jouer sur la domination de l'Europe. François Ier, j'allais dire, parce qu'il avait été vainqueur et parce que la tradition faisait que la France, au moins depuis 50 ans, dominait complètement l'Europe, il n'a pas vu l'évolution. Et c'est là où la faiblesse du politique peut être grande. C'est que jusqu'en 1525, jusqu'à Pavie, il ne voit pas. Il pense qu'avec la guerre, avec l'argent et avec des soldats, il aura tout. Et la vie lui a montré que c'était possible. Et c'est là où il n'y a pas de remise en question. Parce que jusqu'à Pavie, qui est un accident, puisque c'est une escarmouche qui se transforme en bataille, et que c'était pas... C'était, voilà, bon, c'est un coup du sort. Et même lui, même François Ier, quand il sort d'après un an de prison, ne pense pas avoir perdu. Et toute l'Europe va le soutenir encore. C'est simplement en 1529, après, avec le traité de Cambrai, où là, les deux sont ruinés, les deux sont fauchés, sauf que Charles Quint peut avoir de l'argent, et notamment de l'argent du Nouveau Monde, qui commence à arriver peu à peu, peu encore, hein, mais quand même. Et là, François Ier, lui, il est pris en étau. Mmh. Et c'est là où c'est cuit. Et c'est là où peut-être il s'aperçoit qu'il a fait une bêtise, mais c'était trop tard.
Mais c'est, je voudrais revenir quand même sur l'idée d'empereur universel, parce que on ne l'a peut-être pas assez dit, François Ier se présente à l'élection du Saint-Empire romain germanique, c'est quand même pas rien. Est-ce Alors, qu'il imaginait sérieusement que les couronnes, notamment la couronne d'Angleterre, allaient permettre une telle élection, une telle domination, être roi de France et en même temps roi des Romains?
À l'époque, Henri VIII n'est pas grand-chose. L'Angleterre, c'est pas grand-chose à cette époque-là. Elle sort de 20 ans presque de guerre civile. Henri VII a commencé à reconstituer les choses. Henri VIII, pour donner un peu plus de pouvoir à son État, va commencer à participer aux guerres contre la France. Mais c'est 5 millions d'habitants. Et il y a l'Écosse au-dessus, qui est un allié d'une fidélité absolue avec le roi de France. Ils ont Calais, certes, encore, mais c'est pas grand-chose. Ils peuvent pas envahir quelque chose. Et ils peuvent ennuyer l'expansion française, et par une alliance avec d'autres ennemis français, notamment avec l'Empire, ils peuvent participer à une mise en danger. Mais eux peuvent rien faire. L'idée de l'élection impériale, elle est ouverte officiellement à tous les princes chrétiens. Même si, depuis le XIVe siècle, tous les électeurs étant devenus allemands, ça réduisait instinctivement, de par cette évolution aussi du nationalisme et des nations qui se structurent de plus en plus dans toute l'Europe, justement en opposition à cette notion d'empire. C'est ça qui est assez amusant. Va réduire un peu le champ d'action, même si, et régulièrement, les rois de France vont proposer leurs frères ou leurs fils à cette élection. Et comme il y a toujours des princes allemands qui sont contre leurs voisins et qui cherchent toujours à garder, à conserver leur indépendance face à un empereur ou un roi des Romains qui n'a pas de pouvoir réel, et c'est un chef d'une fédération, il n'y a pas d'impôt général pour l'Allemagne, il n'y a pas une administration, tout ça, on est vraiment dans un état d'une fédération. Enfin, c'est pour ça aussi que l'Allemagne, ça marche bien aussi aujourd'hui, hein, c'est pas pour rien, c'est que c'est complètement rentré dans leur mœurs depuis des années, ou l'idée de...
Depuis des
siècles, exactement. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne, ce truc. Ça fonctionne jamais en France, et c'est pas pour des prunes non plus, parce qu'il y a toujours l'idée de dire, et alors, le président, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, on est dans cette idée-là d'une fragilité, sauf que c'est un prestige immense. Parce qu'être roi des Romains, ça veut dire être aussi un jour élu, couronné empereur des chrétiens. Et donc là, ça justifie à la fois toute l'ambition des rois de France pour cette idée d'empereur universel, même si la notion d'empereur universel ne rentre pas dans cette logique d'élection, puisque c'est Dieu qui le choisit. Mais si Dieu choisit les hommes pour élire et qu'il est élu, et donc du coup Dieu a participé aussi à tout ça, et par conséquent, que Dieu te choisisse dès ta naissance ou que tu passes par de l'élection, au résultat, et ça ce sera toute la propagande de Charles Quint pour justifier ses ambitions, et bien c'est pareil. Et c'est parce que le François Ier est très très puissant en 1515, 1516 et 1517, et même 1519, Il y a l'essentiel des électeurs allemands qui sont aussi favorables au fait que finalement François Ier puisse les défendre, parce que Charles Quint a un côté, enfin ce Charles d'Autriche n'a 15 ans, l'autre il en a 20 certes, sauf qu'il a été un vainqueur admirable devant les Suisses qui étaient les meilleurs guerriers d'Europe, et donc il pouvait aussi les protéger sur les frontières de l'Est, et notamment contre les Turcs qui cherchaient constamment à grappiller vers la Hongrie. Et donc c'est assez logique. Et c'est simplement après, parce que l'idée de la démocratie et du vote, j'allais dire pas utile, mais serein, n'était pas encore entré dans les mœurs, mais même dans l'Église, hein, c'est pareil, l'élection des papes, il y a aussi l'argent qui circule à cette époque, et bien là, il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé, beaucoup de promesses faites,
de privilèges.
Et de privilèges accordés, ou là encore, en prévision dans l'avenir. Mais il y a eu aussi une chose qui a marqué, peut-être, qui a été peut-être le plus important, c'est qu'il y avait quand même un Français. Et puis il y avait un Allemand. Et en dernier lieu, c'est le sang qui a privilégié, qui a été préféré à l'idée de la sécurité.
Alors sur le doigt de Dieu, je renvoie nos auditeurs au chapitre de l'élection elle-même. Quand je l'ai lu, j'ai écrit dans la marge conclave avec un point de avec un point d'exclamation, parce que on a l'impression à lire
vos
mots que c'est exactement comme un conclave.
Ah oui, surtout à cette époque où franchement c'est des manigances autant à Rome ou là c'est vraiment. Mais c'est parce qu'on est très très, j'allais dire, on a appris la démocratie. Ça s'apprend pas du jour au lendemain, ça s'impose pas du jour au lendemain. Et donc notre docilité face au vote et notre volonté de faire un vote, j'allais dire, pur et honnête et tout ça, n'était pas du tout encore entré dans leurs mœurs.
Alors nous avons beaucoup évoqué cet empereur, enfin ce roi de France chrétien, et cette empereur universel qui est aussi très chrétien, cet empereur qu'il souhaite être mais qu'il ne devient pas, et il s'oppose à Charles Quint, quitte même à s'allier, c'est ce qu'on a appelé l'alliance impie, quitte même à s'allier avec un certain Soliman qui était à la tête de l'Empire ottoman, et un empire qui ne cessait de se développer. J'allais dire, est-ce que pour un contemporain, cette alliance impie relevait d'une faute politique qui pouvait amener jusqu'à la désobéissance?
Ah ben c'était considéré, c'est pour ça que pendant très longtemps ça a été secret. Pour faire dans la propagande de Charles Quint pour dénigrer François Ier dès les premières guerres entre ces deux hommes, 22-23, va commencer à lancer l'idée que François Ier s'allie avec ce diable, parce que il est considéré comme le diable en personne, et tout ça est totalement faux. Sauf que peut-être que l'idée est restée. Et que 5 ans plus tard, eh bien, pour des raisons commerciales, on va essayer de lier les choses. Si, et c'est là où toute l'ambiguïté est encore de la politique, c'est que les raisons pour des raisons de bénéfices commerciaux, Venise par exemple, mais aussi certains bateaux italiens et certains ports italiens, autres, notamment comme Gênes ou espagnols même, eh bien, commerçaient avec l'Empire musulman, enfin l'Empire ottoman. Eh bien, mais il est hors de question qu'il y ait une alliance politique. On est dans des échanges. C'était officiellement avec des chrétiens, même si ceux-ci étaient en rapport toujours avec d'autres, d'une façon un peu moins claire. Et donc on était dans cette espèce d'ambiguïté. Mais j'allais dire, le peuple de France ou même d'Europe n'est pas au courant de tout ça. Il est dans une totale ignorance. Et officiellement, on est dans un pays comme la France où il n'y a pas d'hérésie, où il n'y a que des chrétiens, puisque les juifs officiellement ont tous été expulsés depuis Charles VI, même si c'est faux, et voire même avec les expulsions de Charles VIII et de Louis XII de Provence. Donc officiellement, il n'y a que des chrétiens. C'est un pays pur. Et donc il ne peut, il est donc dans l'exemplarité de justement de cette prétention à l'universalité, puisque il n'y a rien. Il n'y a pas chez les Allemands, chez les Espagnols, on sait qu'il y a encore des maranes et des gens comme ça, c'est-à-dire où il y a toute ambiguïté de la religion. Là, il n'y a rien. Officiellement, toujours, hein, toujours par rapport au regard de la monarchie face au territoire de France et face à la religion. Officiellement, donc, quand François Ier va chercher des alliances contre Charles Quint après 1530, c'est parce qu'il est totalement coincé. Il est tout seul. Il est tout seul, il a dû abandonner tous ses droits en Italie, il a dû rompre toute l'alliance qui était l'alliance de Cognac, qui unissait la moitié des États italiens avec lui contre Charles Quint. Et Henri VIII, à l'époque, redevenu ami de la France, ne peut absolument pas, même avec une flotte qui est assez importante, contrecarrer la puissance de Charles Quint, et notamment en Italie, et en Espagne, et dans l'Empire. Et François Ier va, j'allais dire, racler tout. C'est-à-dire qu'il va s'allier avec le pape, Clément VII, et c'est le résultat de cette alliance, c'est le mariage de son fils Henri avec Catherine de Médicis. Il va s'allier avec tous les princes protestants d'Allemagne, alors que lui se dit très catholique, fils aîné de l'Église, et où il n'y a pas d'hérésie à l'intérieur de son royaume, et parce que justement ce sont des victimes d'un tyran, Charles Quint. Il va s'allier avec le roi d'Angleterre, qui lui est pratiquement en rupture avec Rome au même moment parce qu'il veut se séparer de sa première épouse pour épouser Anne Boleyn. Vous imaginez le machin, hein? Tout ça pourquoi? Pour toujours contrecarrer Charles Quint. Et forcément, il faut des navires, forcément il faut embêter Charles Quint sur la péninsule italienne et aussi en Espagne. Et qui trouver? Eh bien, il y a des corsaires, dont Barberousse, musulmans, il suffit de payer, on paye. Et l'alliance avec Soliman va commencer comme ça. D'abord une alliance commerciale, après une alliance de soutien par l'intermédiaire de mercenaires comme Barberousse. Et puis l'affaire de la Hongrie, qui va être conquise en 27 par les Turcs, eh bien, va donner la possibilité au roi de France de décréter que Charles Quint est complètement nul puisqu'il n'est même pas capable de conserver ses frontières. Charles Quint va dire le contraire en disant que si je ne peux pas garder mes frontières, c'est à cause du roi de France qui m'embête tout le temps et qui me fait toujours la guerre. Voilà, ça c'est leur discours, mais n'empêche que cette histoire de la Hongrie va permettre à la France aussi de dire, ben voilà, le roi hongrois que Charles Quint avait choisi, il est nul, il est mauvais, moi je vous en choisis un autre. Et cet autre-là, eh bien, c'est un allié, il est allié aussi à Soliman. Et donc, c'est par l'intermédiaire plus de la Hongrie que, du coup, l'alliance franco-turque va pouvoir se construire. Elle est très discrète. Pendant toutes les années 1530, il y a des bruits, des rumeurs, et officiellement, il va tout démentir. Lors de la guerre de 1542, et la dernière avec Charles Quint, eh bien, Charles Quint va annoncer publiquement dire, voilà, c'est le pire des chrétiens, c'est François Ier, parce que, voilà, j'ai la preuve de l'alliance. Et François Ier va dire, oui, c'est vrai, je me suis allié avec Soliman, et j'utilise ses bateaux, c'est vrai qu'ils sont venus à Marseille, c'est vrai que je les ai fait rentrer, c'est vrai qu'ils essayaient de prendre Nice, qui était à l'époque du duché de Savoie, et on n'y a pas réussi, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il a décidé de devenir chrétien. Donc cette alliance ne sont que des bras ouverts face à un nouveau chrétien, et au contraire je suis bien plus tolérant que vous et bien plus ouvert, parce que si ce monsieur qui se convertit me choisit plutôt que vous, Charles Quint, c'est qu'il sait que je ne suis un type formidable et que vous êtes qu'un tyran, même si vous êtes chrétien. Et cette espèce d'astuce, ça a l'air d'être ridicule comme je vous dis, mais je vous assure d'une chose, ça a été expliqué à la diète de Habsbourg, ça a été publié dans une quantité de textes en France quand les Français ont su que ben, François Ier s'alliait avec le diable, et ça a été aussi jusqu'à Rome. Et on y est cru ou pas, j'en sais absolument rien. Toujours est-il que l'idée de prétendre au baptême de Soliman futur et de tout son peuple, et du coup, et là on en revient à l'image de l'empereur universel, c'est qu'il arrive, grâce à son aura, grâce à l'aide de Dieu, eh bien, à faire convertir des musulmans en chrétiens. Et là, c'est là qui fait que du coup, il devient beaucoup plus crédible que même Charles Quint à prétendre à cette universalité. Et ça va pas marcher, mais cette alliance avec Soliman, ben les rois de France vont la garder tout le temps après. Parce que ça va être une protection, c'est une, un gros défaut du XVIe siècle pour la France, en tout cas c'est un manque d'une marine, il n'y a pas assez de bateaux, et même si on développe le Havre ou Marseille ou Toulon pour construire des navires, les Espagnols et les Portugais en auront toujours beaucoup plus, et les Italiens aussi. Et donc du coup, il manque des bateaux. Et donc les batailles navales vont se développer, et l'aide de Turc va être essentielle. Et c'est une sorte de deal comme ça qui va se faire ensuite, où voilà, il y a une séparation, c'est presque Constantinople en fait, et une alliance régulière de la France, mais c'était une alliance importante puisque ça permettait d'encercler aussi tout l'empire Habsbourg, autant quand il avait l'Espagne et la Germanie, et même après quand ça va se séparer.
Alors, on voit bien avec l'affaire Soliman que notre différence de perception commence dès l'époque du règne, et cette perception biaisée ne va cesser de persister, et beaucoup d'idées reçues vont apparaître sur François Ier. C'est les idées reçues sur François Ier, c'est tout cet
imaginaire universaliste, oui, qui va disparaître, et on va en faire un roi excessivement nationaliste, justement.
Alors, une des grandes idées, alors il y a 6 ou 7 idées reçues sur
François Ier. Oui, c'était les principales, parce
alors,
que...
je vais renvoyer nos auditeurs, parce qu'il reste environ 5 minutes, je vais renvoyer nos auditeurs à votre ouvrage, mais la première idée reçue, je voudrais en tous les cas parler de deux idées reçues, le roi chevalier, et puis le fameux édit de Villers-Cotterêts, qui est extrêmement important. Tous les élèves pensent que le français devient la langue nationale à cette époque. On vous a menti.
Bon, pour le roi chevalier, c'est assez simple. François Ier a été vainqueur à Marignan, il a eu une défaite cuisante à Pavie. Un roi qui est sur un champ de bataille et qui perd, ça fait toujours désordre. Et quand il revient en France, un roi de France devant être totalement crédible dans la défense de son territoire et donc s'engager même personnellement, eh bien, il va falloir réinventer quelque chose, une nouvelle image. Et c'est là où on va commencer on réécrit la deuxième fois, ou la troisième fois de Marignan. Et là, on va inventer un petit personnage qui existe, hein, mais il est mort déjà depuis 3 ans. Bayard, un capitaine Bayard, qui jusque-là a une vie de capitaine. Jean Dauton en parle un peu sous Louis XII, mais vraiment peu. On le cite une fois dans les récits de Marignan contemporains à la bataille, et puis 2-3 ans plus tard. Mais autrement, rien. Il arrive, il a fait une... Parce que justement, dans les années 1521-22, la situation française dans le nord de la France se porte assez mal, et grâce à sa présence et aussi à Montmorency, il y a une ville qui est gardée, et ça a été un événement énorme puisque toutes les autres villes étaient perdues, et donc du coup il est arrivé à être un peu plus populaire à ce moment-là. Et l'année suivante, il meurt en Italie au moment où justement celui qui aurait dû défendre le roi de France, défendre le territoire de par sa position de principal vassal du roi de France et de par sa charge de connétable, c'est-à-dire Charles de Bourbon, lui avait trahi. Et on est toute la logique de la construction de ce fameux adoubement de François Ier par Bayard est simplement pour faire effacer le premier adoubement, c'est-à-dire le doublement de François Ier lors de son sacre par Charles de Bourbon. Charles de Bourbon était un traître, un chevalier qui trahit, et bien fait déchoir tous ceux qui ont été chevaliers par lui. François Ier, par cette invention de l'adoubement par Bayard au lendemain de Marignan, eh bien, avait subtilement, peut-être inconsciemment déjà, enfin selon ce qu'on a voulu bien faire croire, eh bien, récupéré toutes les valeurs guerrières d'un homme qui s'était battu pour le royaume et puis qui était mort aussi pour ça et pour lui. Et ça, c'était notre histoire. Ça, on ne trahit pas.
Alors, il nous reste 3 minutes hein, sur l'ordonnance de justice, parce que l'ordonnance de justice, c'est un peu, ça fait penser un peu à l'encyclique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau roi, il sort une ordonnance de justice.
Ah oui, et c'est souvent la même en plus.
Et, dans cette ordonnance de justice, il y a le fameux passage sur le français et la langue française.
Oui, parce que c'est presque 100 ou 190 ou je ne sais plus combien d'articles, en fait, c'est presque 200, c'était un truc énorme, et qui résume à la fois toutes les réformes de Charles VIII, Louis XII et puis celle de François Ier dans une grosse somme pour bien qu'on s'en souvienne et par rapport à des évolutions. C'est une réforme judiciaire qui est assez dure. La peine de mort est appliquée pour des vols ou des choses comme ça. Enfin, c'est une loi assez réactionnaire, qu'on pourrait juger nous réactionnaire ou autoritaire. Et à l'intérieur, il y a un article qui, justement, pour éviter les problèmes de compréhension entre Français, Louis XII et Charles VIII avaient déjà supprimé le latin pour les résultats, les actes officiels, mais de procès justement pour que tout le monde puisse comprendre le rendu et qu'il n'y ait pas de confusion. Louis XII avait prétendu que c'était mieux de le faire dans la langue locale. C'était pas idiot, il y a 23 langues à cette époque en France. Le seul problème, c'est que les avocats ne parlaient pas forcément le catalan, le berrichon ou je ne sais trop quoi. Donc du coup, on a étendu ça au français, c'est-à-dire la langue d'État, la langue du roi, et on l'a étendu au royaume. Tout ça, on est dans une idée de compréhension et pour éviter d'autres procès, et d'autres incompréhensions. On n'est pas du tout dans l'apologie de la langue française. Et puis d'autre part, cette notion de français, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne remettait pas en cause l'existence des autres langues de la France, c'est-à-dire le provençal, le berrichon, le normand, le ch'ti, ou comme n'importe quel langage que vous pouvez avoir. Et c'est avec le temps, les juristes qui vont dire, mais oui, mais bien sûr, mais c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal de faire du français, sinon on ne va rien comprendre. Et donc c'est par eux, ces juristes de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, qu'on va ressortir cet article, et où finalement, d'une nuance dans une immense loi, eh bien cette loi va devenir uniquement l'intronisation du français dans tous les actes à la fois juridiques et puis aussi dans pour tous les Français. Et donc être utilisé notamment au XIXe siècle quand on va supprimer ces langues régionales, et bien aider à cette sorte de ce jacobinisme avant la lettre qu'aurait été François Ier.
Eh bien, merci beaucoup Didier Le Fur. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage, François Ier, cette magnifique biographie et étude donc de la perception de François Ier à travers les siècles et les grandes idées reçues sur ce règne sur lesquelles vous apportez un éclairage de vérité. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Donc votre ouvrage François Ier aux éditions Perrin Didier Le Fur. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité. Nos réseaux sociaux s'émeuvent un peu, se développent beaucoup. Et je souhaiterais donc dédier à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook et à Twitter, cette émission dont j'ai déjà parlé, je leur avais annoncé l'Alliance Impie, nous en avons parlé. Merci beaucoup Didier et à très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce.